Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 5 novembre 2022. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon,
Est-ce que tu entends le tic-tac, tic-tac, tic-tac?
Oui.
Ça commence, il commence à être temps que le Salon de l'auto de Montréal commence à s'activer, n'est-ce pas?
Je pensais que tu voulais dire, il commence à être temps que tu installes ton abri tempo, que tu ranges tes...
Bon. Installer les pneus d'hiver.
C'est ça s'en vient.
Ça s'en vient aussi.
Ça s'en vient. Mais oui, le Salon de l'auto de Montréal, deux mois et quelques jours.
C'est là.
Ça. Oui. Ça s'en vient assez vite. Et on a eu confirmation qu'il y aurait un Salon de l'auto de Montréal, édition 2023, au Palais des Congrès, avec toutefois plusieurs bémols. C'est-à-dire que...
Avec une formule qui sera assurément très, très, très différente de ce qu'on a connu, j'allais dire, dans les années passées, mais dans les deux dernières années, il n'y en a pas eu. Ce sera une formule sur une superficie réduite, ça on le sait déjà. Donc, ça se tenait sur trois étages. Ce sera réservé sur un seul étage, le deuxième étage du Palais des Congrès.
Donc, plus besoin de faire des corridors, plus besoin de faire des lignes, des files d'attente, de monter des étages, de descendre.
Non.
Un seul plancher, davantage air ouverte que par le passé, là,
oui.
Évidemment.
Oui.
Et pas besoin de vous dire qu'il y aura des absents, parce que...
Et ils seront nombreux.
Nombreux, considérablement. Mais il y a quand même des constructeurs qui avaient... confirmer ne plus vouloir être présent dans des salons automobiles et qui ont changé leur fusil d'épaule et qui reviennent.
Comme qui, par exemple?
Nissan Infiniti, qui avait dit « on ne fait plus de salon automobile ». On va être présent au Salon de l'auto de Montréal.
Donc, le constructeur canadien sera présent sur place. Ce ne sera pas un regroupement des concessionnaires de la région de Montréal.
Exactement.
Qui déplaceront des véhicules.
Exactement.
D'accord.
Évidemment, faudra voir exactement, mais moi, j'ai parlé à différents constructeurs automobiles. Alors, Toyota Lexus sera présent. GM, Ford, Chrysler sera présent. Les deux Coréens seront présents aussi. Mais il y a quand même beaucoup d'absents. Alors, à commencer par Honda Acura, qui n'est pas là.
Oui, mais ça avait été annoncé d'avance et on n'a pas changé d'idée.
Mazda, qui a choisi pour 2023 de ne faire aucun salon, mais on ne ferme pas la porte à revenir en 2024. Alors, c'est vraiment pour l'année 2023. Bon, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, on n'est pas là. Un autre gros joueur qui ne sera pas présent, c'est Volkswagen Audi. Ça fait du monde, là. Ça te vide des tablettes, là, pas à peu près.
Ça remplissait un salon, là.
Exactement.
Ces marques-là.
Et puis, tu vois, on va parler en deuxième partie d'émission à John May de chez Mitsubishi Motors. On n'a pas encore de confirmation sur la présence de Mitsubishi au salon.
Il est minuit moins
une. Mais si on n'a rien confirmé à ce jour... T'es en train de me dire qu'il est peut-être un peu trop tard.
Parce que sur le plan de la logistique, peut-être qu'on le réalise pas, là, mais quand on est présent dans un salon comme ça, il faut penser à la construction et à l'aménagement du kiosque. Il faut avoir des véhicules sur place, là. Il faut les commander, ces véhicules-là. C'est souvent des versions peut-être haut de gamme avec tout l'équipement pour en faire la démonstration adéquatement.
Comme j'écrivais dans un article cette semaine, en fait, les véhicules qu'on veut voir dans les salons, c'est ceux que tout le monde veut avoir et qui ne sont pas disponibles.
Alors, c'est un peu embêtant.
Si tu vas dans un kiosque Chevrolet, les véhicules qu'on veut voir, c'est le nouveau Cadillac Lyriq, c'est les nouveaux...
Le Blazer électrique, l'Equinox électrique.
Alors qu'on va être capable de t'amener des GMC terrain. Ça, on est capable de t'en amener. Il y a de l'inventaire. Ça se peut. Mais c'est ça.
J'ai hâte de voir aussi pour le salon, est-ce qu'on va conserver le même tarif d'entrée? Parce que visiblement, on n'aura pas droit au même spectacle. Là.
Non, tout ce qui s'appelle, attraction particulière, incluant les voitures modifiées,
oui,
incluant l'espace réservé aux voitures électriques. Ça, ça revient pas non plus.
Donc, il n'y aura pas de voitures modifiées, il n'y aura rien de ça.
À moins qu'il y ait des constructeurs qui se désistent, puis qu'on essaie de remplir des trous sur un plancher.
Okay. Okay.
Mais tout ce qui s'appelait événements spéciaux dans des salles fermées, tu sais, les Ferrari puis tout ça de ce monde ne se déplaceront pas là. C'est un salon, ça va être un salon davantage de consommateurs. Tous les petits kiosques, les commerçants, tout ça, attendez-vous à ce que 80% de ça, ça disparaisse, là. À l'exception, bien sûr, du commerce du paternel de Germain Goyer.
On croise les doigts. Hein?
C'est ça. Mais je te confirme qu'il va y avoir moins de ventes cette année que les autres années, peut-être.
Oui, parce que est-ce que l'achalandage sera le même? On peut s'imaginer que ça pourrait être réduit, là. Ça pourrait être revu à la baisse, là.
Tu le sais aussi bien que moi. Les derniers salons de l'auto, on parlait de près de 200 000 visiteurs.
Ouais, alors plus à 180 en étant optimiste, là.
C'est bon, mais divise 180 sur 10 jours.
Oui.
Hein? Ça veut dire 18 000 visiteurs par jour. Le salon de l'auto électrique de Montréal, en 2 jours et demi, avait fait 43 000.
Oui.
On est carrément là. Alors, est-ce que les gens qui vont au salon de l'auto électrique vont aussi aller au salon de l'auto de Montréal?
Excellent.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une clientèle, il y a une partie de la clientèle qui s'est faite voler.
La visite d'un salon n'empêche pas la visite de l'autre, mais il y aura assurément redondance puisque le salon du véhicule électrique comprend tout ce qui est électrifié. Là, on avait des véhicules hybrides rechargeables là, à ce salon-là.
Oui, puis je veux dire, ça va aller.
Mais là, est-ce qu'on va conserver la formule 10 jours aussi, là, 2 week-ends avec la semaine entre les deux?
Alors, on est toujours à 10 jours. Bertrand Godin demeure porte-parole de l'événement. Je lui ai parlé ce matin pour avoir ses... Bon, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'informations à me donner parce que le mandat n'est pas clairement défini encore sur quel est le message à passer.
Je trouve ça audacieux de conserver la formule 10 jours parce qu'il va y avoir des temps creux, là.
Ah, c'est sûr. C'est sûr. Puis, je veux dire... Est-ce qu'on va réussir aussi à aller chercher suffisamment de gens pour bien représenter les marques, des gens qui ne voudront pas...
Du personnel d'agence, là. Tu sais, on s'entend...
Il y a pénurie de personnel.
Donc,
je veux dire, tu as des vendeurs de concessionnaires qui vont on disait dans le jargon, qui vont faire du temps, là, tu sais.
Oui.
Tu sais, qui s'en vont sur le plancher pas vendre de véhicules pendant qu'ils pourraient en vendre ailleurs.
Ouais.
Tu sais, c'est un marché très particulier, celui du Salon de l'Auto de Montréal. On sait que ça revient. Moi, honnêtement, je suis curieux de voir comment on va se débrouiller. Est-ce que ça va être une belle surprise? Est-ce que ça va être un flop comme celui du Salon de Détroit?
Je pense effectivement que les gens vont avoir hâte d'y retourner parce qu'il y aura eu deux ans sans Salon de l'Auto de Montréal. Les gens auront hâte d'y aller, mais il sera possible, à mon avis, de constater de la déception là, chez les gens du public.
Puis ce que je me disais aussi, si on fait ça sur un seul plancher, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on revienne au stade?
Ah, ça, c'est une excellente question.
Mais si on revient au stade, c'est un salon qui va ressembler encore plus à celui du salon du véhicule électrique qui a lieu depuis deux ans.
Bien sûr.
Donc là, parce que le Palais des congrès, là, on s'entend, là, c'est peu importe ce qu'on dit, c'est loin d'être l'endroit idéal. C'est difficilement accessible en voiture. C'est le bordel se rendre au centre-ville. Pas besoin de te dire qu'avec le tunnel puis tout ça,
l'accessibilité... Oui, ça facilite pas l'entrée à Montréal, là, on est d'accord.
Alors, il va falloir user de stratégie. J'ai hâte de voir aussi, est-ce qu'on va baisser le prix à la porte? Est-ce que le Palais des congrès va mettre de l'eau dans son vin? Permets-moi d'en douter.
Je
pense que la tranche de pizza va coûter encore plus cher cette année, moi, tu sais.
J'ai l'impression.
Fait que, on va voir, mais on sait qu'il y aura un salon de l'auto de Montréal cette année. Avec plusieurs absents, mais avec quand même un nombre plus élevé de constructeurs présents que ce à quoi je me serais attendu, honnêtement.
On verra bien.
Demain matin, je suis constructeur automobile, tu me dis, ça te tente-tu de venir dépenser 1 million pour installer un kiosque pour pas vendre des véhicules que t'as pas?
Parce que c'est ça la réalité. Un salon de l'auto, c'est quoi pour un manufacturier? C'est un outil marketing. Un outil marketing dont on s'est passé depuis 2 ans, puis on n'a pas eu le choix de s'en passer. Est-ce qu'on a vendu moins de véhicules depuis ce temps-là à cause de l'absence d'un salon? Non. on n'a pas de véhicule à vendre en ce moment. Alors,
c'est plus l'image, c'est plus l'image des constructeurs. Ça va probablement passer par la présence d'une bonne partie des porte-parole des constructeurs automobiles. Tu sais, attends-toi à ce que Kia et Hyundai aient leurs porte-parole respectifs sur place. Même chose du côté de chez...
Assurément que chez Hyundai, on aura des séances là, d'autographe avec Marie-Lou au moins trois fois par jour.
C'est ça. Voilà. Non, mais il va y arriver. Tu sais, Marie-Lou Wolf allait faire son tour chez Chevrolet.
Bien sûr.
J'ose croire que... Est-ce que Pierre-Luc Funk va être chez Volkswagen?
Non, parce Volkswagen n'y sera pas. Voilà.
C'est ça. mais bref, à suivre. Alors, voilà pour le Salon d'Auto de Montréal. Quelques infos supplémentaires qui sont sorties cette semaine sur la Kia EV6 GT, qui est un drôle de véhicule dans la mesure où on veut jouer la carte de la performance avec une pseudo-voiture VUS.
C'est particulier. Moi, dans ma lecture de la situation, j'estime que Kia veut aller rivaliser avec Ford et le Mustang Mach-E GT. Ouais. On veut aller dans ces eaux-là. On a connu ces derniers jours le prix de ce Kia EV6 GT. Donc, il est offert à partir de 74 495 $.
Non éligible au crédit.
Non, effectivement. Oui, ça paraît élevé, mais ça demeure quand même moindre que le Mach-E GT à 97 000 $.
Oui, c'est ça.
Ce qui est très cher, là, on va se le dire. Mais effectivement, on mise sur la performance. Ce sera finalement le véhicule qui a le plus puissant produit à ce jour, quand on analyse la situation, parce qu'on aura 576 chevaux. On aura un moteur électrique à l'avant de 160 kW. Un moteur électrique à l'arrière de 270 kW. Et là, tu le mentionnais, on mise sur la performance. Et si on mise sur la performance, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'autonomie n'est pas optimale. Ouais. Donc, ce qui est annoncé par Ressources naturelles Canada, c'est 332 km.
Ce qui est très ordinaire.
Ce qui est très ordinaire. Alors, est-ce que c'est vraiment la stratégie à adopter en ce moment de miser sur les performances à tout prix pour voir l'autonomie être réduite? Est-ce que c'est vraiment ce que la clientèle désire? Moi, j'ai l'impression que, justement, d'opter pour une autonomie qui est optimisée, qui est prolongée, d'opter pour... des technologies de recharge dans un temps qui serait réduit, ce serait plus intéressant que juste d'arriver avec des grandes puissances.
C'est parce que moi, je veux dire, j'ai eu la chance de le conduire.
Oui, en plus. Un Kia V6, là, déjà, là...
Il y a de la puissance.
Il y a de la puissance, t'as l'instantanéité de l'électricité.
Ouais.
C'est déjà pas... c'est pas un âne, là.
Non, c'est ça.
Est-ce qu'on avait vraiment besoin de pousser le bouchon
Mais
à
c'est
ce
drôle,
point?
Parce que tu regardes une Kia V6 GT, bon, t'arrives à côté du véhicule, grosse
avec
roue...
Avec des étriers verts
fluo, les sièges sport comme dans une Mustang là-dedans, le bouton de performance sur le volant, mais tout le reste... C'est la même affaire.
Ben oui.
Alors, on ajoute des trucs. Puis effectivement, tu pars avec le véhicule, et puis là, tu mets ça en mode race, t'accélères, c'est une catapulte. Là.
Ça
c'est
doit,
une bombe
clairement.
Épouvantable. Mais que veux-tu faire avec un tel niveau de performance dans un véhicule comme celui-là qui n'est pas conçu pour te donner du plaisir au volant?
Ça demeure un véhicule pesant.
C'est générique au niveau de la conduite, comme une IONIQ 5, un ID4. C'est pas...
Donc, les accélérations sont fulgurantes, mais le comportement, on demeure avec un pseudo VUS très lourd. Là.
Oui, et je te dirais que c'est peut-être moins amusant en conduite qu'un Mach-E GT.
OK.
Tu sais, on n'est pas encore...
On n'a pas le même degré de plaisir de conduire.
Ça n'a pas été conçu en ce sens-là. C'est juste que là, on a voulu faire une version de performance plus rapide.
Pour en épater un peu la galerie. Et du côté de Hyundai, est-ce qu'on a annoncé qu'on aurait, par exemple, une IONIQ 5 N ou quelque chose? Je ne sais pas si on emploiera cette stratégie-là.
Ça va être une IONIQ 5.
Une IONIQ 5.
Ouais.
Oui, je ne sais pas.
C'est bon.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commandé la plaque personnalisée ironique pour la Hyundai IONIQ 5. Là, ça a circulé un peu sur Internet. Est-ce qu'on aura une version de performance du GV60 aussi? Je ne le sais pas. Est-ce que ce sera réservé à la EV6? Bonne question. On sait que quand on a un véhicule avec la même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques, c'est difficile de se différencier qu'on a tout ça chez trois marques d'un même groupe. C'est difficile à un moment de...
Dans le GV60, je verrais davantage la pertinence.
Oui.
Parce que là, tu t'adresses à une clientèle plus premium. Mm-hmm. Y en a certains qui vont vouloir avoir ça, quitte à couper un peu dans l'autonomie, ça se peut. Mais dans le V6, pour vrai, oui, c'est une belle curiosité, mais jamais tu me vendrais un truc de même. Honnêtement, là.
Bon. Surtout à ce prix-là.
Ben, c'est ça, là, 74 000, là, ça commence à être des sous. Là.
Ça commence à être considérable. Alors voilà.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, je sais que tu n'aimes pas ça, là, mais cette semaine, tu as été contraint d'aller brûler de l'essence.
Brûler du gaz, brûler du pétrole, brûler tout ce que tu veux. Oui, effectivement, je suis allé du côté du Michigan, dans des dunes de sable. Je ne savais même pas que ça existait au Michigan. Et pourtant, ça existe. On s'est promené là-dedans pendant quelques heures au volant du F-150 Raptor Air. Et on a rajouté une lettre à ce camion monstre parce que pour 2023, on offre une version encore plus puissante en réponse au Ram 1500 TRX qui, lui, venait carrément rire du Raptor régulier. Là. On n'était pas dans le coup du tout. Avec le moteur V6 EcoBoost du Raptor en guillemets régulier. Donc, on répond au Ram 1500 TRX de 702 chevaux avec un Raptor Air de 700 chevaux. Donc, on est dans la même gamme. Et essentiellement...
Et pourquoi on a deux chevaux de moins?
Ah, c'est une très bonne question. Là, on aurait peut-être pu faire un demi-tour de boulon de plus.
Enlève une feuille dans le filtre à air, là, puis va
quelque chose comme
deux chevaux.
Bonne question. Mais on nous a dit, parce qu'avant même qu'on pose la question, on nous a dit chez Ford, oui, il y a un petit écart avec la concurrence, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est perceptible à la conduite.
Non, c'est totalement vrai, mais sur papier,
il aurait fallu avoir 704 chevaux juste pour battre la concurrence et faire ta publicité en disant que tu as la camionnette la plus puissante. Mais non.
Mais est-ce qu'ils font vraiment de la publicité pour
ils en ont pas besoin. Là, ça se vend déjà tout seul. Et donc, essentiellement, c'est le moteur V8 5,2 litres de la Shelby GT500 avec la suralimentation, c'est brutal, c'est bruyant, ça accélère. Ce qui m'a fasciné même, je te dirais, c'est la manière dont la transmission automatique opère. Tu effleures un petit peu l'accélérateur alors que tu es déjà engagé. Elle rétrograde tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que je me branche en sixième, en septième? Non, non. Il n'y a pas d'hésitation. C'est les gaz au fond tout le temps. C'est vraiment, vraiment une machine impressionnante. Cela dit, ça sert à quoi un Raptor Air? Pas grand-chose, parce qu'une camionnette, à la base, c'est conçu pour être un véhicule de travail, mais là, c'est un camion qui est conçu simplement pour montrer que t'as un camion plus puissant que ton voisin. Là. C'est du gonflage d'ego, tout simplement. Je vais quand même te parler du prix, là, parce que je trouvais que c'était un enjeu. L'option R là, donc de ce moteur V8, c'est 40 000 $ à ajouter au prix de base d'un Raptor qui, lui, est déjà à 102 000 et des poussières. Ce qui est considérable là, comme somme, là. Tu vas être d'accord avec moi. Et le problème, c'est que le Ram 1500 TRX affiche le même prix d'entrée qu'un Raptor à moteur V6 EcoBoost. Donc, le Ram 1500 TRX et 40 000 $ de moins que le Raptor. Comment justifier cet écart de prix?
Et qu'est-ce que Ford répond à ça?
Ben, tu sais, on nous répond qu'on a essayé d'établir le prix le plus juste et blablabla. Tu sais, c'est toujours la... J'ai essayé de savoir aussi combien on allait en avoir au Canada. Tu sais, est-ce qu'on allait avoir une distribution très limitée où on allait tous les garder aux États-Unis? On sait très bien que le Bronco Raptor au Canada, il y en a pratiquement pas, ben puis non. On en aura pratiquement pas non ben plus. Non. Alors, on peut s'imaginer que ce sera la même chose avec le F-150 Raptor Air. Alors, oui, une machine très, très, très impressionnante, mais en même temps, ça sert à rien. Mais je te cacherai pas que j'ai quand même eu du plaisir dans les dunes de sable. De ton côté, tu as conduit, Antoine, le Kia Sportage dans sa version hybride rechargeable. Tu avais assisté, si ma mémoire est bonne, au lancement du véhicule. Et à ce moment-là, tu avais conduit la version à essence. Mais là, et hybride, possiblement.
Il n'y avait pas d'hybride encore.
Mais là, c'est la version hybride rechargeable que tu as pu mettre à l'essai.
Bien, qui me semblait être la plus pertinente. Parce que, bon, l'hybride rechargeable, évidemment, c'est une technologie qu'on aime beaucoup chez nous.
Oui.
Sur papier, ça te permet de faire 55 km en mode 100% électrique. C'est très optimiste. Je vous le dis tout de suite, on a une batterie de 13,8 kWh, donc le même format que celle de l'ancienne génération du Outlander PHEV, qui est aujourd'hui rendue à 20 kWh. Donc, tu vois qu'il y a quand même un écart.
Il y a une progression aussi là, dans le marché.
C'est particulier comme conduite parce qu'on conserve une transmission automatique à 6 rapports traditionnelle, mais qui opère avec un véhicule électrique. Donc, tu roules sans entendre le moteur et tu sens les changements de vitesse se faire. C'est pas désagréable, c'est juste particulier dans la mesure où par exemple, dans un Outlander, tu as une boîte à une vitesse.
Ouais.
Y en a d'autres, ça va être des CVT, mais une boîte traditionnelle, automatique, on voit pas ça souvent avec un PHEV. Et c'est ce qu'on a là-dedans. Bon, c'est la même mécanique que le Sorento PHEV, que le Tucson PHEV, que le Santa Fe PHEV. Mais ce qui est décevant, c'est vraiment le fait que, bon, l'autonomie réelle, c'est au maximum 50 km dans les meilleures conditions. Donc, et dès que tu allumes le chauffage, le moteur essence se met en marche.
Donc, le 15 janvier, espère pas parcourir 50 km.
Mais ça sera une assistance. En fait, tu vas avoir une charge électrique, ça va être une assistance. Ça va te permettre de rouler plus facilement en hybride. Ça va te permettre d'optimiser ton rendement énergétique. Mais tu ne rouleras pas en 100% électrique pendant 30 km, jamais. T'sais, tu pourras pas, tu vas l'optimiser sur le long terme. L'été, tu vas le faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ce que j'ai pu se constater. C'est un problème aussi avec l'ancien Outlander PHEV. Ouais. Espérons qu'on a réglé le problème cette fois-ci. Mais
Et sur le plan financier, est-ce que c'est intéressant d'opter pour une version hybride rechargeable?
C'est le véhicule hybride rechargeable qui propose le meilleur rapport équipement-prix du marché.
D'accord.
Parce que la version de base à 44 995, elle est tout équipée.
OK.
Tu peux ajouter, ça c'est une EX+, puis tu peux aller dans une SX qui coûte 4000 $ de plus, puis ça va te donner quelques bébelles supplémentaires. Mais honnêtement, la version de base est alléchante.
Mais par rapport à un Sportage à essence ou un Sportage hybride, c'est...
Bien, c'est-à-dire que tu vas chercher 7500 $ de crédit gouvernemental parce que, bon, si tu prends un Outlander, c'est 10 000. Celui-là, c'est 7500 en raison de la taille de la batterie. Le coût de revient de ce véhicule-là est celui d'un hybride régulier, là, littéralement.
OK.
Alors, tu sais, il y a quand même un intérêt d'aller chercher la version hybride rechargeable, mais qui se conduit un peu différemment parce que tu sens quand même le poids du véhicule qui est supplémentaire. Parce que, bon, tu sais, il y a ce petit irritant-là, mais ça demeure un VUS bien équipé, 4 roues motrices, dont le coût de revient avant taxe est en deçà des 40 000 $. Alors, c'est très, très alléchant comme véhicule, mais la technologie hybride rechargeable, elle est un peu décevante par rapport à
ce que tu... Avec une disponibilité qui n'est pas facile non plus, j'imagine.
Qui n'est pas aussi catastrophique que du côté de chez Toyota, bien évidemment.
Non.
Mais on n'a pas une technologie aussi convaincante que celle de Toyota non plus. Alors, tu sais, c'est ça. Mais le véhicule en tant que tel roule très bien. Puis moi, j'avais adoré la nouvelle génération du Sportage en termes d'aménagement, de comportement,
c'est
tout
spacieux,
ça.
Là.
Oh, oui, on a fait une belle job. En fait, on est pratiquement au format de l'ancien Sorento.
Wow.
Carrément. Alors, c'est un produit qui connaît du succès en ce moment avec raison, peu importe la version du sportage. Hey, on est loin du sportage qu'on avait lancé en 2000, en 99.
Que de chemin par
contre. Oh là là, c'est Bob le Mojo. C'est, on n'est plus là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, les choses bougent beaucoup chez Mitsubishi, peut-être un peu plus qu'on le pense. Et les gens ont peut-être l'impression que c'est un constructeur qui est sur un respirateur artificiel. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que c'est facile de les regarder de haut à côté d'un Honda, d'un Nissan, d'un Toyota, par exemple.
Absolument.
Mais il y a des choses qui ont changé beaucoup dans les dernières années chez Mitsubishi Motors. Et pour en parler davantage, ben on est avec le directeur principal de district des opérations chez Mitsubishi, qui va nous expliquer d'abord en quoi consiste son rôle, parce que son titre est beaucoup plus complexe que ce que son travail... Non, je ne veux pas dire que son travail n'est pas complexe, mais je veux dire...
Il y a un travail concret avec un titre c'est peut-être ça. Un peu plus abstrait.
C'est ça, exactement. Merci de me reprendre, parce que là, j'avais l'air du gars qui allait dire que John May ne fait pas grand-chose chez Mitsubishi, alors que c'est tout le contraire. Salut, John.
Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bon, ben écoute, d'abord, John, il faut dire aux gens qu'on se connaît un peu, donc on va prendre la liberté de se tutoyer. Tu es chez Mitsubishi depuis quand même un certain temps. Décris-nous, c'est quoi ton rôle au sein de l'entreprise?
Alors, je vais débuter. Ça fait 14 ans que je suis avec Mitsubishi. Mon rôle, dans le fond, c'est d'être la liaison entre les concessionnaires du Québec et le manufacturier. Et puis, en plus de ça, je m'occupe de 8 concessionnaires de la région de Montréal. Et puis ça inclut vente, pièces et services, satisfaction à la clientèle et tout ce qui peut aller avec la gestion d'un concessionnaire.
Fait qu'autrement dit, tu es DSM en même temps que directeur régional pour une partie des concessionnaires. Ouais. OK.
Exactement, oui.
OK, parfait. Bon, évidemment, pendant un certain nombre d'années, puis tu as été là au début de Mitsubishi, donc tu es quand même capable de te souvenir de ça. Quand Mitsubishi est débarqué au Canada, la gamme était gigantesque. On a essentiellement pris le catalogue américain puis on l'a transféré au Canada avec des modèles qui étaient mort-nés, là, tu sais, la Mitsubishi Diamante, le Montero Limited.
Mais on avait une variété de modèles qui se distinguaient du reste du marché. C'était peut-être pas rafraîchissant, mais en tout cas différent du reste.
C'est un gros nouveau joueur qui débarquait avec des Lancer, des Eclipse, la Galant, la Berline Galant.
Le Montero.
Les deux Montero, Sport, le Montero régulier. L'année d'après, il y a eu le Endeavour, le nouveau Outlander qui est arrivé, etc. Puis évidemment, au fil du temps, on a vu débarquer les Lancer Evo. Fait que il y avait beaucoup de choses qui se passaient chez Mitsubishi. Et puis tranquillement, on a vu les modèles disparaître. Alors là, la Galant est partie. Ensuite, on a abandonné l'Endeavour. On a abandonné les sportives, les Eclipse décapotables.
On a étiré la Lancer sans trop la renouveler pour finir par l'abandonner.
Alors que c'était quand même un produit super apprécié de la clientèle. Puis on a tenté de nous faire croire qu'elle serait remplacée par une berline G4 Mirage
qui a rien à voir.
Il s'en est vendu 800 au Canada en 3 ans, puis bon.
Et c'est ce qui nous donnait un peu l'impression que finalement on abandonnait le marché canadien là, ou qu'on allait l'abandonner éventuellement parce qu'on ne percevait pas de notre côté des efforts pour demeurer compétitif.
Bien, d'une part, et moi ça me rappelait la façon dont Suzuki avait choisi de quitter le marché parce que si Mitsubishi performait relativement bien au Canada, c'en était autre chose sur le marché américain. Et Suzuki avait d'abord quitté le marché américain pour ensuite quitter le marché canadien, parce qu'évidemment, si t'es pas aux États-Unis et t'es juste au Canada, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est assez difficile. Mais là, ce petit moment historique dont on vient de parler est en train de se transformer, parce que si les gens avaient l'impression que Mitsubishi était un petit peu à la dérive, bien, les choses ont changé drastiquement. John, si tu me corrigeras si je me trompe, mais avec l'arrivée du premier Outlander PHEV qui est finalement débarqué en 2017, alors que ça faisait 4 ans qu'on l'attendait, là.
Oui, absolument. Ça a changé beaucoup de choses pour les concessionnaires Mitsubishi et pour Mitsubishi. Vous n'êtes pas sans savoir que le Québec est très, très bon consommateur de véhicules électriques et PHEV, hybrides, tout ça.
Ouais.
Et puis, la venue du PHEV a grandement amélioré la situation des concessionnaires au Québec. Et puis, les 34 concessionnaires, 35 maintenant avec l'ajout d'un nouveau concessionnaire qui vient tout juste de se faire, les PHEV ou les ventes de PHEV représentent 48% de toutes les ventes de PHEV qui ont été faites au Canada. Alors, on vend presque la moitié de tous les PHEV qui rentrent au pays.
Bon, puis évidemment, on comprend pourquoi. Là, il y a des crédits gouvernementaux applicables chez nous qui sont peut-être plus généreux qu'ailleurs, mais il n'en demeure pas moins que ce produit-là répondait à son arrivée à une demande de la clientèle.
Et il a su générer une nouvelle clientèle aussi,
ben,
si je ne me trompe pas. Là.
C'est ça.
Ah, absolument, absolument. Lorsque le véhicule est arrivé, on a vu des clients qui arrivaient chez nous avec des BMW, des Mercedes, des Land Rover, tout ça, pour échanger leur véhicule pour avoir un PHEV. Alors, ça l'a vraiment renouvelé une nouvelle portion de notre clientèle là, qui a apporté un bon vent de changement.
Quand justement l'Outlander PHEV de première génération est arrivé sur le marché canadien, c'était le premier VUS compact hybride rechargeable. Maintenant, il y en a quelques-uns de plus. On peut penser au fameux RAV4 Prime, au Escape hybride PHEV également, le duo de Coréens. Comment, avec le modèle de deuxième génération qui devrait débarquer sous peu, on va réussir à répéter ou essayer de répéter ce même succès-là, sachant qu'on n'est plus maintenant le seul joueur, là?
On n'est pas le seul, mais par contre, je vous dirais que la chaîne d'approvisionnement, elle est quand même très bien établie. Les véhicules vont commencer à rentrer début décembre. Et puis, on prévoit d'ici la fin de l'année avoir pour le pays au complet environ 4500 véhicules qui vont être attribués au Canada. Et puis de ça, normalement, on devrait avoir notre...
À peu près la moitié pour le Québec?
À peu près la moitié pour le Québec. On n'a pas déterminé encore la répartition, parce que ce que vous devez fort probablement vous douter, c'est que les autres provinces qui n'ont pas les mêmes rabais, ben, eux aussi ont vu que le produit il était vraiment beaucoup plus adapté. La clientèle fait des demandes dans les autres provinces où les rabais sont moindres. Alors, il faut essayer d'être équitable pour le réseau concessionnaire à travers le pays aussi. Alors, par contre, on ose espérer qu'on va avoir notre 48%, 50% des véhicules PHEV qui vont rentrer au pays.
Bon, évidemment... Mitsubishi Motors, comme les autres constructeurs automobiles, ont passé à travers des temps difficiles au niveau de la COVID. Est-ce que ça s'est passé différemment chez vous de chez d'autres marques? Est-ce que vous avez quand même réussi à tenir le fort? Est-ce que les ventes se sont maintenues de façon intéressante? Québec versus Canada, peut-être, si tu compares avec un Nissan, avec un Honda, par exemple?
Je vous dirais qu'au début, on n'a pas vraiment ressenti l'impact. On l'a plus ressenti dans les derniers 9 mois où notre inventaire était vraiment réduit. Il y a eu aussi des puces qui manquaient. On commandait. La façon de faire l'approvisionnement auparavant, c'était les concessionnaires commandaient les produits. Et puis nous, on plaçait la commande au Japon. On recevait les véhicules. Par contre, ce qui est arrivé avec les puces qui étaient en rupture de stock, les concessionnaires commandaient des produits haut de gamme, des GT, des SEL, des véhicules beaucoup plus équipés, puis on manquait de puces pour fabriquer ces véhicules-là. Alors, nous, on a repris le contrôle au mois d'avril et puis on a dit aux concessionnaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir le maximum de produits, même si c'est des véhicules entrée de gamme, parce qu'on a besoin de moins de puces pour fabriquer ces véhicules-là.
Ouais,
alors, c'est arrivé. Et puis, comme tout, c'est à peu près 3-4 mois de délai pour reprendre le courant normal. Et puis, je vous dirais que depuis 2 mois, les véhicules qu'on vend au concessionnaire, ce qu'on appelle le wholesale dans notre jargon, commencent à augmenter beaucoup pour rencontrer la demande.
Fait que si, par exemple, évidemment, je ne parle pas du PHEV, mais si, par exemple, demain matin, je veux aller chez Mitsubishi, acheter un RVR, un Eclipse Cross, un Outlander à essence, le délai de livraison, ça peut ressembler à quoi?
Je vous dirais que le délai de livraison est peut-être de 45 jours à 60 jours. On a de l'inventaire qui n'est pas vendu, qu'on peut livrer assez rapidement les véhicules, mais lorsque vous voulez avoir un véhicule beaucoup plus équipé, vous devez vous attendre un petit délai.
OK, mais c'est pas une catastrophe, là.
C'est pas une catastrophe. C'est pas ce qu'on entend de d'autres manufacturiers où vous devez vous mettre sur une liste d'attente pour plusieurs 6 mois, 9 mois, 1 an. Non, c'est pas comme ça chez nous.
Avec un regard... Contre, oui, vas-y, John.
Je vais dire la chose suivante, c'est que la demande pour le PHEV, elle est énorme. Et puis, on a plus de, je vous dirais, de mémoire à la dernière fois que j'ai discuté avec Toronto. On a environ 4500 commandes. Alors, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas remplir toutes ces demandes-là de la part de...
Pour l'année calendrier 2022... Mais si vous prenez, là tu me parles d'à peu près 4000 unités qui vont entrer en 2022 au pays, à l'intérieur de quoi, un mois, est-ce qu'on fait x12 pour l'année 2023? Ça me surprendrait, là.
Bien, ça me surprendrait, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les 4500, c'est pour le reste de notre année fiscale. Notre année fiscale se termine au mois de mars. Alors, c'est sûr et certain que 4500 véhicules au Canada d'ici la fin mars, c'est quand même, je vous dirais qu'on va remplir beaucoup de commandes.
Tu nous mentionnais, John, que Mitsubishi était très fort au Québec, proportionnellement au reste du Canada. Comment on arrive, entre guillemets, à tenir son bout du bâton face, justement, au reste du Canada et surtout face aux États-Unis, qui, en termes de population, est bien plus grande, là?
Bien, nous, dans le fond, on a 35 concessionnaires dans la province du Québec. 11 de ces concessionnaires-là sont programme image de Mitsubishi. Les profits sont bons pour ces concessionnaires-là. Puis, on n'a pas à supporter 20 modèles. On a 4 modèles. On a le Mirage, dans le fond, qui, comme tu disais, Antoine, qui n'est pas vendu en grande proportion. Par contre, on a 3 modèles. Le RVR, l'Eclipse Cross, l'Outlander, qui inclut le PHEV. Alors, pas beaucoup de frais d'inventaire à supporter pour les concessionnaires. Ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. On n'a pas 20 véhicules à supporter. On en a 4. Ça va quand même assez bien. Presque la totalité de nos concessionnaires au Canada sont profitables. Alors ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes pour un manufacturier. Si votre réseau de concessionnaires est heureux, fait de l'argent, il est prêt à investir, il est prêt à faire des programmes images, ainsi de suite. Alors, ça, c'est ce qui est bon pour la marque Mitsubishi au Canada et au Québec.
Bien, écoute, puis tu me parles de ça. Moi, je suis... Bon, évidemment, je suis capable de reculer un peu en arrière puis de me souvenir qu'il y a des gens qui avaient pris des bannières Mitsubishi, mais qui, en réalité, s'étaient lancé un gros concessionnaire de véhicules d'occasion avec, accessoirement, des Mitsubishi neuves à vendre. Ça n'existe plus vraiment, ça, je pense, aujourd'hui. Là, les concessionnaires qui faisaient ça ont peut-être perdu leur bannière ou s'en sont débarrassés, peu importe, mais on voit des concessionnaires se mettre à l'image, investir plusieurs millions de dollars dans des bâtisses d'envergure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, puis surtout, il y a quelque chose qui s'en vient, puis un gros futur pour Mitsubishi, là.
Absolument. C'est sûr et certain qu'on n'est pas dans... Il y a un plan. Le plan, il est concret. Mais tant aussi longtemps que le plan ne sera pas ancré dans le ciment, on ne peut pas dévoiler ces informations-là. Mais il y a un très bon plan pour le futur de Mitsubishi, pour le Canada, pour les États-Unis. Et puis, c'est pour ça que, comme tu dis, les concessionnaires investissent beaucoup d'argent dans des rénovations, dans des constructions neuves, tout ça. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit compétitionner aussi avec tous les autres manufacturiers de ce monde. Et puis, on se doit d'avoir une image qui est propre pour les consommateurs.
Non, ça, c'est évident. Puis, évidemment, ben faut aussi que vous soyez capable de conserver votre clientèle. Je pense que le taux de rétention est quand même assez bon chez Mitsubishi. Il le sera probablement encore plus avec les gens qui vont passer de l'ancien au nouveau PHEV. Ça va vous faire des véhicules d'occasion intéressants aussi à revendre. Mm-hmm. Mais encore faut-il qu'on ait cette impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là, on a vu des nouveautés arriver au compte-gouttes. Il y a des véhicules qui sont quand même avec lesquels vous avez quand même un peu moins de succès. Là, l'Eclipse Cross, c'est pas un véhicule qui connaît le succès qu'il pourrait connaître dans le contexte actuel. Bon, évidemment, le Mirage, c'est un véhicule accessoire, là. Quoique les ventes sont en hausse depuis un certain temps.
Parce que des petites voitures, il y en a plus. Le RVR, c'est un produit qui est très, 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 très vieillissant aussi.
Oui, mais qui se vend très bien.
Oui, t'sais? Oui, oui, parce que c'est pas un mauvais produit en soi. On sait que quand on achète ça, ben, c'est peut-être un peu rudimentaire, mais en même temps, on va être bon pour un bon moment avec ça, là.
Mais, absolument, oui. Je vais vous dire la chose suivante. Ce qui a pu aider dernièrement l'Eclipse Cross, c'est vraiment le COVID a aidé quand même l'Eclipse Cross. C'est rendu 23% de nos ventes année à date. Et puis, on a vu une progression dans les ventes de ce véhicule-là. Il a été redessiné la deuxième année parce que les gens n'aimaient pas l'arrière du véhicule, tout ça. Alors, je crois que Mitsubishi prend prend les actions nécessaires pour essayer de convaincre la clientèle d'acheter le produit Mitsubishi.
Sur une note peut-être un petit peu plus globale, John, on sait que depuis quelques années, Mitsubishi fait partie d'une alliance avec Nissan, qui est un plus gros joueur finalement. Et comment on va arriver à continuer de se distinguer de cet autre manufacturier généraliste? Oui, je veux bien croire qu'on pourra partager des technologies, mais il faudra pas avoir deux marques avec des produits jumeaux. Comment on va se distinguer à moyen et à long terme?
Bien, je crois que le but principal de Mitsubishi, c'est de garder son ADN. Alors, oui, on partage des plateformes. On a seulement qu'une plateforme en ce moment qu'on partage, qui est l'Outlander. Mais c'est vraiment l'image de Mitsubishi qu'on essaie de recréer dans le produit. Puis, comme je disais, je suis pas dans le secret des dieux pour beaucoup de projets à venir, mais je sais que on essaie de garder l'ADN de Mitsubishi dans tous nos produits et puis de conserver, dans le fond, l'ADN Mitsubishi dans Mitsubishi.
Évidemment, tu nous disais que le Québec est un marché important par rapport au reste du Canada. Puis quand on compare le marché du Québec avec celui de plusieurs États américains aussi, on se rend compte qu'ici, il y a une proportion intéressante. Je pense que vous avez tout près de 40% de part de marché. Est-ce que ça sonne des cloches chez Mitsubishi Motors que le Québec soit si important, que ce petit endroit en Amérique du Nord soit si important pour le constructeur?
Bien, je crois que ce n'est pas seulement Mitsubishi qui a ces performances-là. Oui, on représente en moyenne 40% des ventes canadiennes.
Mais il n'y a aucun autre constructeur actuellement, bon, peut-être mis à part Tesla, parce que c'est un marché particulier, là. Mais il n'y a aucun autre constructeur, ni Hyundai, ni Kia, qui a un si haut taux de pénétration à l'échelle québécoise versus le reste du Canada. Mitsubishi est, je crois, si je ne m'abuse, numéro un en termes de proportion de ventes québécoises versus canadiennes. Donc, ça veut dire quelque chose, là.
Oui, oui, ça veut absolument, ça veut dire quelque chose. Les concessionnaires sont investis. Puis c'est sûr et certain qu'on doit faire la différence lorsque le client rentre chez nous. Écoutez, là-dessus, j'étais vraiment convaincu qu'on était plusieurs manufacturiers là où on avait des bonnes parts de marché. C'est une bonne nouvelle pour nous. puis il faudrait que je vérifie tout ça pour vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Là, non, oui, on représente 40% des ventes au Québec.
Bon, ben John, là, l'Outlander PHEV, tu disais que ça arrive début décembre. J'ai vu passer un communiqué cette semaine qui disait que là, ça commence à entrer au compte-gouttes, mais j'imagine que plus massivement, ça arrive début décembre. J'ai bien hâte de voir à quel point ces véhicules-là vont se multiplier sur les routes. Et puis, j'ai bien hâte de l'essayer durant l'hiver aussi pour voir si ça va livrer la marchandise, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pu le conduire, mais dans un contexte un peu idéal, là.
Puis c'est un modèle de pré-production, là, ouais, entre grands guillemets.
Ouais,
là,
c'est
mais,
ça. Fait que, à voilà. Suivre, toi, tu vas avoir la chance d'aller le conduire, Germain, dans les prochaines semaines.
Oui, à l'occasion du lancement canadien, alors ce sera mon premier contact avec le véhicule. Et ce qui est, je ne sais pas, ironique ou peu importe, j'avais assisté au lancement du Outlander PHEV de première génération qui était également en Colombie-Britannique. Alors, ça commence à être le métier qui rentre, hein?
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà.
Comme quoi, les années se suivent et se ressemblent.
Et se ressemblent, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, merci beaucoup, John.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, répondons à quelques questions des auditeurs. On a Joël qui nous demande s'il est important d'effectuer un changement d'huile sur un véhicule hybride rechargeable, considérant qu'il n'a parcouru que 400 km en mode essence dans les 6 derniers mois.
Ben oui, parce qu'une vidange d'huile, il faut la faire, je dirais minimalement une fois l'an, là, parce que l'huile va se contaminer d'elle-même de toute façon avec le temps. Alors, si le moteur ne roule pas...
Et les changements de température aussi vont influencer son efficacité.
Bon, c'est sûr qu'un constructeur automobile va vous dire « Faites-le aux 6 mois » ou « Faites-le aux... » Mazda parlait même de 4 mois à un moment donné. Mais je pense que si on le fait une fois l'an, c'est sécuritaire dans un contexte comme celui-là. C'est un minimum. C'est même pas ce que le constructeur va recommander, mais dans la vraie vie... tu peux évidemment faire ça comme ça. Le problème, c'est que si tu ne respectes pas ce que le constructeur va dire et si jamais il arrive un pépin un jour, ben tu pourrais te faire refuser une réclamation de garantie. Fait qu'il y a ça qu'il faut considérer aussi, là. Puis le constructeur va vous dire, ben ça prend une vidange d'huile chaque 6 mois, probablement. Mm-hmm. Alors, tu sais, est-ce qu'on respecte ça à la lettre? Dans un monde idéal, oui, mais la vérité, c'est que le faire une fois par année, je pense qu'il n'y a pas de danger, là.
On a Kevin qui voudrait se procurer un VUS d'occasion. Il magasine les Subaru Forester XT 2014 et Subaru Crosstrek 2014 avec plus ou moins 200 000 km au comptant. Il s'intéresse aussi au Mitsubishi Outlander 2014 et Kia Sorento 2014. Qu'en penses-tu? As-tu une préférence parmi ces choix?
Pour la fiabilité mécanique, pas pour le raffinement, mais pour la fiabilité mécanique, l'Outlander, ça demeure une très bonne machine. Évidemment, le Forester XT, c'est la version turbo, donc c'est très gourmand, ça prend de l'essence super. La Crosstrek 2014, on a connu des problèmes de moteur avec le 2 litres à considérer. Et puis le Sorento 2014, c'était encore l'ancienne génération. C'était pas ce qu'il y avait de plus convaincant. Moi, j'irais du côté du Outlander. C'est pas le plus joli, c'est pas le plus impressionnant sur le plan technique, mais c'est extrêmement fiable.
Dernière question, on a Steve qui nous mentionne que sa conjointe et lui ont essayé pas moins d'une douzaine de véhicules et ils n'arrivent pas à se décider entre le Hyundai Tucson et le Volkswagen Taos 2023. Es-tu en mesure de les éclairer?
Moi, j'irais avec le Tucson. C'est tout simplement un meilleur véhicule, surtout si vous comparez prix pour prix. Le Taos est un véhicule un peu plus sous-motorisé. C'est un véhicule pas nécessairement plus petit parce que c'est un gros sous-compact.
C'est un gros petit VUS,
c'est ça.
Là, oui.
Mais le Tucson, sur le plan technologique, est tout simplement plus impressionnant. C'est étonnant, par contre, de voir à quel point le Taos peut être économique sur route.
Oui. Parce qu'on a une petite cylindrée, effectivement, c'est pas très gourmand.
Mais le Tucson traditionnel avec un 2.5, ça fait un très, très bon boulot. Et pensez peut-être à l'option de l'hybride, qui est très intéressante aussi. Pas l'hybride le plus impressionnant sur le plan technologique, mais ça vaut toujours la peine de passer à l'hybride dans ce genre de véhicule-là, si vous voulez mon avis, que ce soit un Escape, que ce soit un RAV4, que ce soit le nouveau CR-V. Bon, CR-V, vous allez devoir vendre votre chalet, là, pour... mais c'est une autre affaire. Mais moi, j'irai vers le Tucson en avance.
Merci beaucoup, Antoine, et bonne route sur les routes de la Californie, justement, en Jeep Wrangler avec des gros pneus.
Oui, exactement.